Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Organisé par une trentaine de structures locales et nationales, le Mois décolonial est un cycle d'événements culturels et politiques ayant lieu à Grenoble pour tenter de déconstruire l'imaginaire colonial. L'imaginaire colonial, c'est cet héritage du passé qui constitue le socle d'un racisme et d'une violence structurelle encore présente dans notre société. En faisant dialoguer paroles intellectuelles, artistiques, universitaires ou citoyennes, le Mois décolonial entend proposer une lecture différente, interroger notre manière de faire société et lutter contre les assignations. Pour cette troisième édition, Radio Campus Grenoble a réalisé des émissions et des podcasts. Et pour le troisième épisode de notre série consacrée au Mois décolonial, nous avons rencontré Hamzat Boukari Yabara, historien et président de la Ligue panafricaine Umoja. Invité par le comité Traite négrière et esclavage et la Ligue panafricaine Umoja pour une table ronde autour de la notion de réparation, il nous en explique ici les enjeux politiques, juridiques et économiques. Hamzat Boukari, on s'est rencontrés hier pour une table ronde que tu faisais dans le cadre du Mois décolonial sur les réparations. Est-ce que tu peux un peu nous dire pourquoi on t'a invité toi sur ce sujet-là et peut-être te présenter le parcours qui t'a mené à parler de ça.
Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis historien, je travaille sur le panafricanisme. Enfin, j'ai écrit un livre sur le panafricanisme, qui est un mouvement de libération qui est né parmi les Africains déportés en esclavage. Et dans le cadre de cette histoire, après l'abolition de l'esclavage, il y a eu des dédommagements qui ont été faits aux anciens propriétaires et qui ont été constitutifs d'une inégalité structurelle entre les anciens esclaves et les anciens propriétaires. Une inégalité que l'on retrouve aujourd'hui à l'échelle globale et qui est cristallisée autour d'un cas particulier qui est l'indépendance d'Haïti et la dette que la France a imposée à l'État d'Haïti en échange de la reconnaissance de cette indépendance. Et pour moi, ce moment, il est fondateur du néocolonialisme parce que c'est un État qui prend son indépendance par une guerre, mais qui se retrouve dominé, soumis par une dette. Donc c'est un thème sur lequel je travaille depuis presque une dizaine d'années et sur lequel j'ai eu l'occasion aussi de mener des formations auprès de différents groupes, auprès de différents politiques également, en France, en Belgique, en Amérique du Sud, un petit peu en Afrique, pour que cette question des réparations puisse être mieux comprise et que l'on aborde les différents enjeux qui se posent aujourd'hui en Afrique à travers cet axe-là. Donc ça rentre, je dirais, dans mes travaux scientifiques. Ça rentre dans mon engagement militant. Je suis également président d'une organisation, donc la Ligue panafricaine Umoja, qui justement était partenaire du Mois décolonial sur cet événement et sur d'autres événements qui concernent davantage la jeunesse. Et troisièmement, ça rentre pour moi dans ce que j'appellerais l'internationalisme contemporain, c'est-à-dire la nécessité de lier les luttes afro-descendantes, les luttes autochtones, les luttes prolétaires, les luttes également féministes, puisqu'il y a une construction du genre à travers cette question-là, et les luttes anticapitalistes dans une même dynamique.
Et est-ce que du coup tu peux nous dire de quoi on parle quand on parle de réparation, de qui on parle, quelles sont les personnes qui sont concernées, qui revendiquent et auprès de qui?
Alors, les personnes dont on parle au sujet des réparations, ce sont déjà les descendants des Africains déportés dans les Amériques, avec un cas déjà très particulier que j'ai évoqué brièvement, le cas d'Haïti, puisque Haïti est un État qui a dû payer une dette au moment de son indépendance et dédommager des anciens propriétaires ou descendants de propriétaires. Donc du coup, il y a toute une traçabilité de la dette qui est à faire, aussi bien du côté français. Donc ça a été évoqué hier, le fait que on a des Français d'un peu partout en France qui ont mis des économies dans ce système-là et qui, de ce fait-là, ont constitué un patrimoine qui s'est transmis de génération en génération. dont une partie du peuple français aujourd'hui dépositaire. Donc c'est l'État français en tant que tel qui est vraiment concerné. Et du côté également des demandeurs, là c'est aussi un petit peu plus compliqué parce qu'on s'appuie sur des territoires. Donc c'est principalement les peuples et les États caribéens. On a les pays de la CARICOM qui est la communauté des Caraïbes qui se sont organisés pour émettre un plan en 10 points et pour demander auprès des instances internationales que la question des réparations soit vraiment mise à l'agenda. Aux États-Unis, c'est différent parce qu'aux États-Unis, il y a eu un esclavage et un colonialisme sur le sol américain. Et les réparations vont dans deux sens. Il y a les réparations réclamées par les peuples autochtones, donc les Premières Nations, donc États-Unis, Canada, enfin tous ceux qui ont été détruits par l'invasion coloniale à partir de 1492. Et ensuite les réparations réclamées par les Afro-Américains, les Afro-descendants, vis-à-vis notamment du système américain. Donc là, on est plus dans des réparations, on va dire, soit de groupes communautaires vis-à-vis d'un État, soit d'individus vis-à-vis d'un système. Et c'est dans ce contexte-là que, par exemple, des multinationales, des entreprises, des universités, des institutions vont faire l'objet de demandes de réparation de part des descendants qui vont estimer que leurs ancêtres ayant été réduits en esclavage, ça a entraîné ce qu'on appelle une privation d'opportunité. C'est-à-dire que les inégalités, les millions et millions d'heures de travail gratuit produites par leurs ancêtres ont créé un préjudice, un manque à gagner, qui est la base de leur situation d'aujourd'hui et qui nécessite une réparation structurelle. Donc l'un des éléments, je pense, qui est important, c'est vraiment de souligner qu'on n'est pas dans une recherche de culpabilité. C'est vraiment ce que j'ai souligné. C'est pas une question relevant d'une sorte de péché originel, de repentance, etc. Mais vraiment de péché structurel qui s'est accumulé. Parce que ce qui est véritablement visé, c'est le système capitaliste. Donc d'une certaine manière, partout le capitalisme s'est développé dans sa forme la plus brutale, la plus sauvage, la plus destructrice de vie, de relations, de territoire, de nature, etc. Il y a lieu de poser une question de réparation. Et c'est en ça que c'est vraiment une question globale. Par exemple, la problématique du chlordécone, donc l'empoisonnement des terres en Martinique avec donc des agents pesticides interdits, ça rentre aussi dans le schéma des réparations. Le fait de mener des politiques de santé publique qui soient spécifiques vis-à-vis de ce qu'ont subi certaines populations, ça rentre dans le thème des réparations. Par exemple, à Porto Rico ou en Martinique, vous avez des taux très élevés de cancer qui sont liés en fait à toute une destruction de l'environnement qui nécessite des politiques spécifiques de réparation. Sur la question de la restitution des objets pillés pendant la colonisation, ça rentre également dans un des volets des réparations. Donc du coup, on a à la fois des parallélismes entre ceux à qui on demande et ceux qui demandent, et en même temps des asymétries, puisque d'un côté on a un système structuré, invisible, le capitalisme qui se masque derrière beaucoup d'autres choses, qui se masque aussi parfois derrière des bourses. Donc il y a tout un système où des entreprises qui ont participé à la traite et l'esclavage vont développer des systèmes de bourses pour les étudiants d'origine africaine pour justement adoucir, édulcorer leur rôle dans la constitution de leur capital. Donc du coup, on est vraiment dans une constellation d'enjeux. Mais pour résumer, il y a quelques niveaux bien précis. Il y a la question de Haïti, parce que là, on est vraiment dans une relation d'État à État qui fonde un système néocolonial. On a la situation des territoires de la Caraïbe où les Premières Nations étaient génocidées et ceux qui sont arrivés après ont été confrontés à un environnement naturel qui n'était pas propice à un développement harmonieux. Et après, on a des groupes, des collectifs ici ou là. Donc ça peut être les populations afro-colombiennes déplacées de leur territoire du fait de conflits structurels. Ça peut être également ceux qui, sur le continent africain, ont subi une colonisation dont on peut identifier et tracer les tenants et les aboutissants. Donc là, on rentre dans des approches plus individualistes. Donc du coup, il y a vraiment plusieurs niveaux. Un niveau global, un niveau étatique classique et un niveau plus communautaire.
nous avez donné plusieurs exemples de réparation. Est-ce que pour vous, ces demandes de réparation, elles vont assez loin ? Et est-ce qu'il y a un risque finalement de récupération de la réparation par des politiques ou par des États ? Et comment on fait pour éviter ça ?
C'est une question très, très, très intéressante parce qu'on est dans un pays, la France, qui est le seul à avoir fait voter une loi qui reconnaît l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité, la loi Taubira en 2001. Et c'est une loi dont on a enlevé l'article qui demandait justement des réparations. Donc pour le moment, on n'est pas du tout dans une situation où les États en tant que tels, notamment la France, s'inscrit dans une logique de réparation. On peut penser que le jour où les choses basculeraient, c'est parce que la France, en tout cas les personnes incriminées, en tout cas les entités incriminées, trouveraient un intérêt justement à s'y soumettre. Donc si on se pose sur une demande de réparation financière, et là aussi on en a un petit peu parlé, c'est très compliqué parce qu'on sait à quel point l'argent corrompt, achète, il y a des sommes faramineuses, il y a des calculs de plusieurs trillions, milliards de dollars, d'euros qui ont été faits pour évaluer cette réparation. Et je pense qu'une réparation uniquement par le capital financier, par l'argent, est déjà en soi une forme de récupération. Donc pour moi, l'un des enjeux pour que ce ne soit pas récupérable, c'est qu'il y ait un vrai projet derrière. C'est qu'on ait vraiment une appropriation de la question des réparations par les citoyens. Et donc tous les citoyens, donc y compris ceux des États auxquels on demande des réparations, d'où le fait qu'il y a une nécessité de former les non originaires d'Afrique et non afro-descendants sur cette question-là, parce qu'ils sont aussi concernés. Dans les réparations, c'est comment on établit des relations de sujet à sujet et non plus de sujet à objet, sachant que la particularité de l'esclavage, c'est qu'il rend objet l'autre. On considère l'autre comme un objet qu'on peut utiliser. Et donc l'un des enjeux, c'est pour ne pas être dans la récupération, c'est comment on construit des relations d'égal à égal et aussi comment les personnes, les entités incriminées, les États tiennent compte de ce que signifie pour les demandeurs et les descendants des victimes des excuses. Donc il faut qu'il y ait un dialogue. C'est le premier élément des réparations, mais pour qu'il y ait ce dialogue, il faut que ceux qui demandent des réparations, les réparationnistes, soient déjà d'accord entre eux, ce qui n'est pas le cas. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui estiment qu'il faut de l'argent, d'autres qui estiment qu'il ne faut pas de l'argent mais plutôt des politiques, d'autres qui estiment qu'il faut juste des excuses sincères, symboliques et fortes, et d'autres qui estiment qu'il ne faut pas du tout de réparation. Donc il n'y a pas non plus de consensus à ce niveau-là. Et tant qu'il n'y a pas de consensus, toute décision peut créer davantage de clivages et de césures. Mais la récupération fait toujours partie des risques, hein, surtout dans une société très, très monétarisée, très capitaliste. Comme je disais, aux États-Unis, ils ont déjà cette logique de payer plutôt que d'avoir à rendre des comptes. Et là aussi, ça nécessite que les comptes soient d'abord rendus avant éventuellement de passer à la caisse, quoi. Et dans les comptes à rendre, il y a par exemple la question de l'accès aux archives, les archives bancaires, les archives coloniales, etc., qui permet un peu de mieux comprendre les mécanismes économiques et de mieux voir dans quelle mesure ces réparations-là peuvent être plus progressives et créatrices que destructrices et aliénantes.
Alors du coup, les réparations, de ce que vous dites, paraissent vraiment comme un processus de décolonisation en fait, des rapports et des relations entre les descendants de colons et les descendants de personnes qui ont été colonisées ou esclavagisées, bien plus que finalement un processus juridique simple. Est-ce qu'on a même en fait à l'heure actuelle des outils juridiques, un paradigme juridique qui permet de vraiment mettre en œuvre ces réparations, ou est-ce que y a bien là aussi un problème où il faudrait repenser notre système juridique? Est-ce que il faut aller repenser aussi notre système de justice pour pouvoir mettre en œuvre ces réparations?
Alors, oui, absolument. La deuxième partie le titre de la conférence, c'était les réparations, une justice décoloniale. Donc effectivement, il faut qu'il y ait ce travail de décolonisation du droit, parce que le droit que l'on applique aujourd'hui, il est très lié justement à cette histoire-là. Donc j'ai expliqué par exemple un peu comment le code noir qui régissait les relations entre le maître et l'esclave est un ancêtre finalement du code du travail. la manière également dont une loi comme celle de la loi Taubira de 2001 qui inclut le terme de crime contre l'humanité nécessite nécessairement une imprescriptibilité des faits. Aussi, le droit il est borné par le politique en fait. Et donc en 2005, il y a une première procédure qui a été lancée par deux organisations, une en Martinique et une en Afrique, qui ont demandé donc à l'État de se saisir de ce sujet-là pour notamment mettre en avant le droit de savoir ou non du droit de mémoire et pour évaluer le préjudice que représente ce crime contre l'humanité. Donc toutes les demandes ont été déboutées, rejetées en cour d'appel et aujourd'hui c'est au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça montre aussi les limites du droit français ou de beaucoup de droits nationaux quant à la notion de réparation. Qu'en est-il du droit à réparation? Je pense que c'est vraiment un champ juridique qui est en pleine expansion du fait précisément de la plus grande compréhension de tout ce qui a été détruit dans notre système, dans notre société, dans notre histoire, qui croise aussi le droit environnemental, par exemple. Donc c'est tout aussi le droit des multinationales. Enfin, tous ces éléments-là, qui sont à la fois des questions normatives et prescriptives, sont, je pense, à travailler. On a besoin de juristes, c'est un travail de juriste, c'est un travail de qualification des faits, c'est un travail aussi de mise en parallèle des préjudices par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc il y a nécessairement une justice décoloniale à mettre en place à travers cette question des réparations. Dans le contexte de la traite et de l'esclavage, le cas vraiment fondateur, c'est vraiment Haïti. C'est vraiment un cas de jurisprudence très concret. Et après, pour les communautés, c'est beaucoup plus en lien, je pense, avec la manière dont les territoires ont été aussi exploités, avec la manière dont on va revendiquer en fait un droit ancestral par rapport au droit classique, la manière dont on va aussi mettre en avant la nécessité dans la relation de sujet à sujet, mais d'inclure également l'environnement, l'espace, le territoire, la communauté qui a été aussi détruite par le capitalisme et par les migrations forcées. Le lien également avec tout ce qui renvoie au système de protection sociale qui sont de plus en plus démantelés. Donc du coup, tout ça fait qu'il y a certainement un champ de la justice décoloniale qui est aujourd'hui à construire, qui est, je pense, l'un des grands dossiers des associations, des mouvements citoyens, des mouvements militants, des partis politiques du XXIe siècle, pour que le droit soit, je dirais, pas dépolitisé, mais repolitisé en direction justement des plus faibles, des plus vulnérables. C'est l'idée qu'une société décoloniale ne peut se développer qu'à partir de la protection des plus vulnérables. Et donc cela nécessite vraiment de casser un certain nombre de schèmes et de structures mentales.
Et en même temps, dans ce processus-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'être beaucoup dans de l'expertise technique et juridique et du coup, d'une certaine manière, de dépolitiser cette question-là, en tout cas que ce soit plus une mobilisation politique, mais vraiment une question technique, quoi.
Alors oui, c'est effectivement un risque. En fait, ce que vous soulevez, ça ne peut être répondu que par une capacité justement à élargir et vulgariser le thème des réparations. Parce qu'effectivement, on a des noyaux, des groupes de juristes, d'économistes, des gens effectivement très, très calés, très pointus sur ces questions, qui sont vraiment très avancés. On a des lobbies, des organisations politiques au niveau de la Caraïbe et des pays anglophones. Mais il n'y a pas forcément de base sociale à la demande des réparations. Parce que c'est une question qui a atomisé les sociétés. En fait, on a créé des perles d'inégalités structurelles un peu partout dans le monde afrodescendant et dans le monde en général, qui se posent des questions de réparation, mais sans le fil qui les relie et qui en fait un collier. Donc pour moi, il y a un travail aujourd'hui de maillage à faire, pour que cette question des réparations justement ne reste pas uniquement dans un domaine technique, d'expertise, bureaucratique, etc. Et ça, ça rejoint une autre problématique qui est aussi la capacité à repenser les organisations de solidarité, à repenser ce qu'on appelle entre guillemets l'humanitaire et j'irais à décoloniser aussi la pensée qu'on a du développement. Je pense que l'un des enjeux aussi, c'est comment on rétablit les premiers concernés dans le poste de pilotage de leur destin et comment aussi on s'appuie davantage sur des savoirs que portent ces populations, que portent les premiers concernés. C'est pour ça que dans la justice réparatrice, il y a aussi l'idée sur un certain nombre de politiques, y compris des politiques sanitaires, de remettre en avant des savoirs dits traditionnels, de décoloniser la médecine qui souvent est vue comme étant justement uniquement ce qui est pensé par l'Occident, de comprendre qu'il y a d'autres manières de penser le monde, qu'il y a d'autres manières d'être au monde. Et c'est en ça que l'Europe est principalement incriminée, parce que dans le grand récit, c'est l'Europe qui a découvert le monde et personne ne se demande qui a découvert l'Europe. Et du coup, il y a effectivement un changement global à avoir. Et ça, c'est ça qui nécessite vraiment de construire des bases sociales qui existent déjà, mais plutôt de les relier pour que ça ne reste pas une question purement technique, froide, avec des chiffres, avec des textes, etc. Un autre élément, c'est que dans les réparations, il y a quand même aussi tout un volet culturel, tout un volet vivant, tout un volet militant qui existe. Et je pense que c'est important effectivement de le mettre aussi en avant, de le visibiliser, de ne pas rester à des approches très, très juridiques et très, très techniques.
Justement, on le disait, c'est pas évident de lutter sur ces questions-là, mais est-ce que vous avez quand même des éléments à donner, justement, par exemple, pour des personnes qui voudraient s'investir sur cette lutte en France, à Grenoble, il y a des collectifs qui existent, j'imagine. Comment on peut faire pour s'y impliquer, sur cette dimension aussi de sociale, sans avoir forcément de compétences techniques ou autres, comment il peut y avoir une implication pour une personne qui souhaiterait pouvoir porter cette lutte à son échelle?
Alors oui, il y a quelques organisations. Après, c'est une question qui est, c'est à la fois une question de niche et c'est en même temps une question globale. Au niveau de quelques organisations militantes caribéennes, cette question est présente. Je pense notamment au Mouvement international pour les réparations, qui a en fait une dimension, comme le nom l'indique, internationale. Donc où que vous soyez, vous pouvez contacter le MIR, qui travaille avec des avocats qui ont déjà instruit introduit les demandes en réparation auprès de l'État français, qui ont vraiment tout un historique de jurisprudence, qui sont toujours en recherche de militants, de personnes qui s'y intéressent et qui peuvent aussi apporter une expertise. On a, nous au niveau de la Ligue panafricaine ou Moja, on est ici à Grenoble et on travaille quand même sur cette question aussi. Donc vous pouvez nous contacter. On a aussi le collectif du 10 mai. C'est un collectif qui se mobilise pas mal autour du mois des mémoires des abolitions de l'esclavage, qui travaille un peu sur cette question, qui est plutôt en région parisienne. Et après, je pense que cette question elle peut être posée à travers des événements comme celui du mois décolonial, c'est-à-dire des conférences, des débats, des lectures, des parallèles entre la question des réparations telle qu'elle est posée dans les milieux afrodescendants et les réparations, par exemple, environnementales. En fait, l'un des enjeux, c'est lorsque vous abordez un thème, un sujet quelconque, de se poser la question de la manière dont le thème que vous abordez est ou pas en lien avec la question des réparations. C'est un peu ça, je pense, qui est important aujourd'hui. Quand vous parlez, par exemple, de la restitution des objets pillés pendant la colonisation, quel est le lien? Est-ce que ça rentre dans la réparation? Quand on évoque aussi des enjeux sécuritaires et militaires aujourd'hui, dans quelle mesure ça rentre aussi ou pas dans les problématiques de réparation? Donc, c'est un peu tous ces éléments-là, je pense, qui peuvent être utiles à des personnes qui souhaiteraient s'y engager, s'y intéresser davantage.
Aussi aussi, vous nous avez parlé pas mal des États des Caraïbes ou de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud. On a très peu parlé des États africains. Est-ce qu'il y a une politique, une revendication au niveau des États africains? Et moi, ça me donne envie de faire le parallèle aussi avec le néocolonialisme. Est-ce qu'on peut imaginer des parallèles à faire de demandes de réparation pour le néocolonialisme? On en est loin parce qu'il n'est pas reconnu, mais voilà, comment on fait cette passerelle-là entre réparation et néocolonialisme? Et est-ce que les États africains peuvent faire ces revendications? Est-ce qu'ils le font, notamment dans le contexte de France-Afrique actuel qui existe?
Alors, en 93, il y avait une conférence panafricaine sur les réparations au Nigeria. Et celui qui l'organisait, c'était un milliardaire qui s'appelait Mouchouda Biola. Dans la conférence, ils avaient vraiment identifié les principaux éléments constitutifs d'une politique de réparation. Et ensuite, il y avait eu un groupe de personnalités qui étaient chargées de suivre un peu les recommandations de l'époque. Dans les recommandations, il était indiqué, par exemple, la fin de l'apologie du crime de l'esclavage et du colonialisme, la libération des prisonniers politiques du colonialisme et de l'apartheid, et un certain nombre d'autres éléments. Au Nigeria, il y a cette question des réparations qui est posée, qui est aussi en lien avec les destructions environnementales au niveau du delta du Niger, avec la zone pétrolifère qui est, je crois, la plus polluée du monde, en tout cas le plus grand ravage écologique au monde aujourd'hui. Au niveau de l'Afrique du Sud également, parce que l'Afrique du Sud, au lendemain de l'apartheid, a mis en place une commission Vérité-Réconciliation qui a posé la question des réparations. Et la jurisprudence sud-africaine a un peu servi de point de départ pour élargir cette question à l'ensemble des relations, on va dire nord-sud pour faire simple. Et donc en 2001, il y avait eu la conférence internationale contre le racisme et la xénophobie à Durban, en Afrique du Sud. Et c'est une conférence très importante parce que c'est la première fois qu'une conférence de ce genre-là se passait en Afrique. Parce que généralement, les grandes conférences internationales ont lieu en Europe ou en Amérique du Nord. Et pour nous, ça pose un problème parce que ces conférences-là étant dans les pays du Nord, généralement, les militants des pays du Sud qui ont des vraies choses à dire n'ont pas les visas. Et donc, du coup, il y a un agenda qui est vraiment contrôlé par le Nord sur des questions qui visent en fait à pointer les lacunes, les défaillances du Nord. Et on sait que les premiers incriminés ne sont pas en capacité de s'autosaisir. Donc, à Durban, la particularité, c'est que c'était un agenda qui était contrôlé par les Africains qui, du coup, étaient chez eux. Et on a constaté qu'il y avait un véritable changement de comportement des pays occidentaux. Parce que pour la première fois, ils se rendaient à une conférence internationale où ils étaient, entre guillemets, accusés et ça ne se passait pas en Europe. Et donc, du coup, ils n'avaient pas le contrôle de l'agenda. Et du coup, ils ont reçu un certain nombre de critiques auxquelles ils n'avaient jamais eu l'habitude d'être soumis. Et à ce moment-là, les pays européens ont claqué la porte et sont partis. Donc, c'était 2 jours avant le 11 septembre 2001. C'est d'autant plus important parce qu'à l'époque, pour les pays africains, le grand combat du XXIe siècle devait être celui des réparations. Et en l'espace de quelques jours, on est passé du grand combat contre les réparations au grand combat contre le terrorisme. Donc on voit aussi comment on s'est retrouvé imbriqué dans une guerre qui est quasiment une guerre privée d'oligopole et d'oligarchie pour reproduire des inégalités, parce que cette guerre contre le terrorisme a reproduit du racisme, de l'islamophobie, de la négrophobie, de la xénophobie. Aujourd'hui, on a une nécessité de repenser depuis l'Afrique ces politiques de réparation, en sachant qu'on a des sociétés, des États qui ont été effectivement détruits par le colonialisme, qui sont encore traversés effectivement par ces questions néocoloniales, qui ne sont pas réellement indépendants. Donc du coup, il y a effectivement un travail à faire à ce niveau. Il y a quelques pistes, il y a quelques pays qui sont intéressants à ce niveau-là. Mais l'enjeu, c'est de voir comment on peut déjà qualifier plus précisément les ravages du colonialisme et du néocolonialisme. Surtout, comment on peut produire des alternatives politiques ici et des ruptures économiques vis-à-vis de ce système-là. Et c'est en ça que la question des réparations est importante, puisque comme je le disais tout à l'heure, une question comme celle du franc CFA, la manière dont elle est traitée aujourd'hui, c'est, pour moi, on ne fait que toucher les feuilles du problème, quoi. Alors que les racines du problème, c'est la question des réparations. Donc si on veut vraiment prendre le problème à la base, si on veut vraiment cibler le système en tant que tel, c'est par les réparations. Si on veut juste mettre un petit pansement, etc., ben oui, on va rester sur le franc CFA, mais il faut aller beaucoup plus loin. La question également des circulations, des libertés, tous ces éléments-là, des formes également de droits, tous ces éléments-là aussi sont inscrits dans la matrice coloniale. Donc il y a un travail à faire. L'un des enjeux qui apparaît aujourd'hui, c'est que les pays d'Amérique du Sud, du fait de leurs indépendances plus anciennes, sont dans une colonialité plus longue que les pays africains. Et donc, ils ont expérimenté davantage de recherches d'alternatives que les pays africains parce qu'ils ont eu un temps beaucoup plus long. Donc aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est comment on s'appuie sur ces expériences-là, comment on échange entre ces deux espaces-là. Et à mon sens, c'est vraiment dans ce dialogue que le décolonial se construit en priorité. Et l'Europe, dans ce dialogue-là, se trouve de plus en plus exclue. Et c'est ce décentrement qu'on attend aujourd'hui de l'Europe. Et c'est ce décentrement que les représentants occidentaux à Durban en 2001 n'ont pas été capables de faire pour comprendre qu'il faut se mettre à la place des autres. Et voilà. Donc du coup, derrière la question des réparations, c'est vraiment des changements de paradigme, des changements de vision, des changements de comportement. Donc il est évident que tant qu'on a des présidents de la République, Sarkozy, Macron, etc., qui s'inscrivent dans ce comportement très, très condescendant, très arrogant, très, très dominateur, très patriarcal quelque part, ce sera très difficile de faire changer les choses de manière intégrale.
Des négriers, des porcs, des monstres de toutes sortes, des hommes qu'on expose comme des marchandises en stock. Tâtez-lui les muscles, tirez-lui son sexe. Ouvrons la bouche qu'on vérifie ta dentition. J'ai secoué la tête et failli rire comme un tonnerre. Me suis ressaisi pour ne pas finir en paix. Long fut le trajet, mortel le périple. Si je suis encore vivant, c'est grâce au Tout-Puissant. Comment est-il possible que des hommes soient si vénaux? Comment peux-tu dormir si t'as vendu ton propre frère? J'ai lutté de toutes mes forces, craché toutes mes tripes. Mais l'adversaire était brutal et cruel. J'ai atterri dans ce bateau, enchaîné dans la cale. Entre vomi, cadavres et excréments. Nu sur cette place publique, à la merci de mes prochains maîtres, j'entendais mes tantes chanter. Blouse blanche, cœur sale, serment hypocrite. Couché à même le sol, regarde dans le vide. Les couleuvres ont quitté les bâtons pour me fermer les paupières, chantant des litanies en langue de vipère. Faites quelque chose pour ma fille, y a-t-il un docteur par ici? Papa criait comme si ses larmes pouvaient me sauver. L'accident fut violent, la Mazda m'a fauché. Soulevé mon corps pour me déposer sur l'autre voie. Le souffle m'habitait encore quand nous sommes arrivés dans ce mouroir au cœur de la capitale. Le médecin était absent, les infirmières occupées à la télé.
Marie Mar ou Isaora. Les gammes, les Miasioa, Mimatim Romeo. Rotait le gardien avachi sur sa chaise. Une bagarre a éclaté, ma vision s'est fut floue. Quand mon sang s'idèle en ventre, les carottes, la clinique. Comment est-il possible que des hommes soient si cupides? Comment peux-tu ronfler en plein milieu d'un cimetière? Avant de rendre l'âme et faire l'amour à la lumière, j'ai ouvert mon cœur pour entendre les anges chanter.
Sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.